et Dieu dans tout ça, l'actualité des philosophies et des religions.
Et comme transition, eh bien, ce sera assez facile puisque, sans plus attendre, c'est en fait le titre du dernier livre en date de Guibert Delmarmol. Bonjour.
Bonjour.
Guibert Delmarmol, économiste, ancien dirigeant d'entreprise et aujourd'hui, alors que va-t-on dire? Philosophe? Gourou peut-être?
Gourou certainement pas, citoyen du monde et puis peut-être indicateur vers de nouvelles solutions.
D'accord, mais on va en parler de ces solutions que vous esquissez, que vous décrivez dans ce livre. En tout cas, Guibert Delmarmol, vous êtes aujourd'hui formateur, entre autres, formateur pour dirigeants d'entreprises qui veulent regarder un petit peu plus loin que leur bilan trimestriel, les cours de la bourse ou le montant de leurs stock options. Et quoi qu'il en soit, eh bien, c'est de nouveau un gros coup de pied dans la fourmilière que vous donnez avec ce livre qui s'intitule donc évidemment « Sans plus attendre ». Et d'ailleurs, première question, pourquoi ce titre, Guibert Delmarmol, il n'y a plus de temps à perdre?
Je pense que notre monde est à la croisée des chemins. La possibilité de se détruire très très vite, comme en font état les médias en exposant toutes les crises auxquelles on fait face. Mais c'est aussi une opportunité de montrer quelque chose de tout à fait nouveau et qui est en train d'émerger. Mais je pense qu'il y a urgence et donc il faut bouger maintenant, sans plus attendre.
Vous êtes un prophète, Guibert Delmarmol?
Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de positif, simplement.
L'heure de l'apocalypse a-t-elle sonné?
L'apocalypse, ça veut dire révélation.
Absolument.
Et donc, la révélation, c'est que peut-être une autre solution est possible et aider les gens en marche.
Alors, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet parce que c'est effectivement un livre dans lequel vous décrivez des solutions qui ne sont pas des projets ou des utopies, en tout cas qui ont un petit caractère utopique, mais qui sont déjà en fait une réalité un petit peu partout dans le monde. Alors, c'est essentiellement de l'économie ou bien il y a aussi d'autres choses? Vous parlez beaucoup d'agriculture également dans ce livre?
J'ai essayé d'avoir une vision intégrale, complète des problèmes auxquels on était confrontés et d'essayer de développer un point sur l'horizon vers lequel on pourrait converger. Et il me semble que pour pouvoir développer ce que j'appelle la dignité humaine, la première des choses à rencontrer, c'est le problème de la nourriture, l'accès à la nourriture d'un plus grand nombre. Et derrière la nourriture, c'est le problème de l'agriculture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre agriculture, qui est extensive et extrêmement mécanisée, engendre énormément d'externalités négatives. Vis-à-vis des sols, vis-à-vis de la pollution de l'air, de l'eau, mais également vis-à-vis de la santé des consommateurs. Donc je pense qu'il est temps de revoir sa copie. Et une fois de plus, c'est une opportunité de développer de nouveaux modèles qui sont déjà là.
Alors vous avez parcouru le monde, vous le faites d'ailleurs régulièrement pour aller voir ce qui se faisait un petit peu partout. Donc on se retrouve aux États-Unis, en Australie, voire au Japon et bien sûr en Europe, voire en Afrique. C'est quelque chose qui n'est pas, simplement dans quelques pays développés. C'est vrai, ça percole vraiment partout aujourd'hui.
Les enjeux de l'agriculture, ils sont extrêmement importants. Au nord, c'est d'éviter la malbouffe et la destruction des sols, mais ils sont encore plus importants au sud, c'est donner l'accès à la nourriture et aux terres aux gens. Donc ce n'est pas propre à l'hémisphère nord, c'est vraiment un enjeu qui est global. Ce qui est de très interpellant, c'est que aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre, qui a à peu près 1 milliard d'individus qui n'ont pas accès à la nourriture ou au seuil calorifique, je vais dire. Or, nous avons la capacité de nourrir 9 milliards d'individus de façon correcte.
Ce sont des solutions pour gens engagés, conscientisés, des militants, ou bien c'est accessible à tout un chacun?
Moi, je me définis souvent comme un utopiste très pragmatique. Donc, il faut pouvoir envisager une autre solution, aller voir sur le terrain ce qui se fait. Non, c'est quelque chose de très réel, de très pragmatique, mais c'est une approche savante. Ce n'est pas pour ce qu'on appelle des écolo-bobos, simplement. On peut rêver d'un monde meilleur, mais ça nécessite de faire travailler ensemble à la fois des sociologues, des agronomes, des biologistes et des économistes pour aborder le problème avec d'autres yeux.
Alors l'autre grand sujet dans le chapitre de l'autonomie, de ce qu'on pourrait appeler l'indispensable autonomie, c'est l'énergie. Alors c'est vrai qu'on est des sociétés énergivores de manière tout à fait, démesurée probablement. Il faut absolument résoudre ce problème-là, Guibert Delmarmol.
Au début du livre, je parle effectivement d'un enjeu qui est majeur, qui est l'autonomie alimentaire et énergétique des lieux, des cités, des villages. Pourquoi? Parce que, au même titre qu'on a besoin de réduire la dépendance logistique de la nourriture vers les grandes villes, il faut savoir qu'une ville comme Paris, si vous coupez la ligne logistique, au bout de 48 heures, il n'y a plus de nourriture. Le problème est identique avec l'énergie. Or, aujourd'hui, on est capable de produire, de construire des maisons, des immeubles qui produisent leur propre électricité.
Et même un peu plus.
Et donc, ça vous permet de réduire la dépendance que l'on peut avoir par rapport à un approvisionnement lointain d'une énergie qui est souvent produite dans des pays où le niveau démocratique est quand même très discutable. Donc, les solutions technologiques émergent, elles sont là, elles sont en devenir. Et moi, j'invite simplement à la fois les entrepreneurs, le monde académique et peut-être le monde politique à regarder dans cette direction et suivre ce qui se fait déjà.
Si elles n'arrivent pas à percer aujourd'hui ces solutions énergétiques, notamment, est-ce que c'est parce que économiquement, je veux dire, la simple balance économique n'est toujours pas suffisamment favorable? C'est toujours les éternelles lois du marché, de l'offre, de la demande, de la fixation des prix, de la rareté du produit. C'est toujours ça qui fonctionne?
Il y a probablement ça, mais il y a aussi le coût de la transition. Donc, je pense, et je le démontre dans le livre, qu'on pourra passer à quasiment 100% solaire. Ça ne vient pas de moi, ça vient vraiment de ce que vous appelez des gourous de technologie américains qui le démontrent, parce que les ruptures technologiques sont là, mais on voudrait passer du jour au lendemain d'une solution fossile à une solution solaire, ce n'est pas possible. Il faut une transition technologique. C'est ça qui est compliqué. Mais nous vivons dans un monde où on a l'habitude d'avoir tout instantanément et les gens ne savent pas attendre. Quand on fait un procès à l'énergie solaire, aux panneaux solaires en disant ça ne fonctionne pas, ça va engendrer des problèmes politiques, c'est réel, mais c'est une courbe d'apprentissage que nous développons tous ensemble.
Nous sommes dans une sorte de crise d'adolescence?
Oui, je pense que l'humanité, effectivement, est dans une forme de crise d'adolescence et que le plus gros défi auquel elle est confrontée, c'est le fossé qui sépare son développement technologique avec ce que je vais appeler son développement spirituel. Ça n'a rien de religieux. Einstein lui-même disait « L'avancée des sciences n'est rien sans l'avancée de la conscience ». Nous avons la capacité technologique de résoudre bien des problèmes. Aura-t-on ce saut de conscience nécessaire pour appliquer ces technologies à bon escient ?
Alors avant d'arriver effectivement au développement philosophique, spirituel même, que vous faites un petit peu, je dirais par petites touches dans ce livre, revenons-en vers le troisième, je dirais, grand pôle de réflexion que vous développez. C'est aussi, on a parlé de l'économie très succinctement, peut-être qu'on pourra y revenir, mais il y a aussi l'enseignement. Et donc, est-ce que vraiment, en fait, c'est un triptyque ou même peut-être plus encore, dont tous les éléments se tiennent, Guibert Delmarmol, on avance vraiment comme ça sur plusieurs fronts en même temps et c'est indispensable d'avancer sur tous ces fronts en même temps.
Mon point de vue et mon souci, c'est de redévelopper une société où la dignité humaine soit centrale. Et pour moi, ça s'appuie sur trois choses. La première des choses, c'est redévelopper une indispensable autonomie alimentaire et énergétique, on vient d'en parler. La deuxième chose, c'est de redévelopper ce que j'appelle une économie régénératrice. Je pense qu'il est trop tard que pour être durable, il faut aller plus loin, il faut régénérer plus de valeurs qu'on en a détruites. Et puis, une fois qu'on peut mettre ce système en place, ça nécessite de changer pour le supporter à long terme, à mon avis, nos modes d'éducation. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que 65% des métiers qu'occuperont les enfants qui sont à l'école aujourd'hui n'existent pas encore. Donc il y a urgence à repenser notre modèle et à concevoir un autre monde et aider ces jeunes qui seront les bâtisseurs du monde de demain.
Alors, je le disais, c'est un petit traité de philosophie qui ne dit pas son nom, qui n'en a pas l'air, mais vous nous dites en fait, en substance, que plus rien en réalité ne sera comme avant. Alors, non seulement notre manière matérielle de vivre, vous venez de le rappeler, de se nourrir, de se soigner, de penser, mais également il y a quelque chose de plus impalpable et de plus profond. Par exemple, vous dites notre rapport au temps, parce qu'effectivement, on voit que les choses ne sont plus les mêmes. Et vous dites notamment, Guibert Delmarmol, que nous serions sur le point de nous repositionner à notre juste place dans l'univers, c'est-à-dire, si on vous en croit, pas grand-chose en réalité.
Et tout en même temps. Je pense que, d'un point de vue plus philosophique, la question auquel le livre essaye de répondre, c'est de facto, qui est l'homme? Que vient-il faire sur Terre? Et comment doit-il y vivre? Moi, le contact avec des scientifiques de haut vol, qui eux-mêmes étaient des philosophes, le contact avec, je dirais, des maîtres de sagesse de toute obédience, partageant simplement le même souci du respect de l'homme et de la vie, Tout ça m'a amené à une considération plus large et dans la croyance d'une phrase qui a été répétée maintes fois par Théa de Chardin, qui est de dire que fondamentalement, nous ne sommes pas des êtres humains essayant de faire une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels, une conscience essayant de faire une expérience humaine. Pour moi, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. C'est que quand on comprend ça, on peut sortir de l'anthropocentrisme, on peut sortir de notre petit moi, comme disent les psychanalystes, et s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large et remettre l'homme à sa juste place dans l'univers. Il fait partie d'un tout et il doit vivre en conséquence.
Il y a pas mal de citations assez intéressantes dans votre livre. Vous citez par exemple le rabbin Hillel, donc qui est une grande figure du judaïsme, qui dans le Pirkei Avot dit cette fameuse phrase « Si je ne suis pas moi, pour moi qui le sera? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Et si pas maintenant, quand ?» Alors voilà, c'est presque un koan zen d'une certaine façon. Ça résume un petit peu votre philosophie personnelle, Guy Berdel-Marmol?
Non, mais j'aimais bien la citation parce que je l'ai utilisée par rapport à la notion d'autonomie, à ne pas confondre avec autarcie. Et le rabbin exprime très bien qu'on peut être pour soi tout en étant pour les autres en même temps.
C'est pas la fermeture.
Ce n'est pas la fermeture. Donc, je parle souvent d'un modèle qu'on appelle glocal, donc qui est la conjonction de deux mots, global et local. Et c'est ce qu'illustre le rabbin, mais qui date d'il y a plus de 2000 ans.
Oui, d'ailleurs, vous renouvelez un petit peu la grande interrogation philosophique. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Et vous la transformez. Vous dites en quelque sorte, qu'est-ce que l'humain? Que vient-il faire sur Terre? Et le mot Terre peut être pris au sens, je dirais, astronomique, de planète. Et puis vous ajoutez aussi, comment doit-il y vivre? Et c'est pas qu'une question philosophique, mais tout est lié. C'est aussi une question matérielle. On en a parlé tout à l'heure. On est peut-être à un moment, Guy Berdel-Marmol, où on ne peut plus réfléchir, je dirais, de manière hors sol, complètement déconnecté du réel. On est obligé d'intégrer des choses extrêmement concrètes, dont par exemple la manière de cultiver des légumes, de produire son énergie, d'enseigner, de faire passer le savoir à d'autres?
Oui, complètement. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un avec une vision pessimiste. Je suis extrêmement pragmatique, mais il faut quand même savoir que des grandes universités comme le MIT, Stanford et puis récemment la NASA ont confirmé qu'on était à la veille de la sixième extinction sur cette planète. Et ce sera la première qui sera due à l'homo economicus, comme je dis, dont nos modes de vie, nos modes de consommation et de production sont tels qu'on épuise la planète. La planète n'est pas en danger, c'est notre humanité qui est en danger. Or, nous sommes potentiellement à la veille d'une extinction, mais nous sommes aussi potentiellement à la veille d'une nouvelle renaissance, car nous avons véritablement la capacité technologique de résoudre énormément de problèmes, de donner accès à l'eau, à la nourriture, à l'énergie, à une masse extrêmement importante de gens. Ce qui compte, en fait, c'est un saut de conscience.
Oui, c'est un saut d'échelle aussi d'une certaine façon, parce que les solutions que vous décrivez, c'est effectivement des petits groupes de pionniers qui touchent un certain nombre de personnes, mais ça reste quand même relativement marginal. Comment faire ce saut quantitatif pour que les grandes masses, plusieurs milliards quand même d'êtres humains aujourd'hui, fassent effectivement ce bond
Alors j'ai donné des exemples très précis dans le livre qui sont des initiatives citoyennes et entrepreneuriales. Ça c'est pour inciter le lecteur à faire partie de ce mouvement. Mais je peux vous dire que c'est en train d'émerger au plus haut niveau. Une ville comme New York, par exemple, a redéployé un plan qu'on appelle Big Apple 2030 pour aller complètement dans cette direction-là, c'est-à-dire retrouver une autonomie, en tout cas alimentaire, de la ville. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par l'émergence de ce qu'on appelle des fermes verticales, de potagers sur les toits, de mise en culture des espaces publics, d'une réimbrication de la ceinture verte autour de la ville, dans la ville, du redéploiement de ce qu'on appelle des micro-fermes, du développement d'une agriculture faite par des néo-ruraux. C'est en train d'arriver, c'est en train d'émerger. New York y pense et d'autres villes également parce que c'est vital. Beaucoup disent d'ailleurs que le monde de demain, la place des villes sera centrale par rapport à la place des nations. Et donc c'est un sujet qui est abordé et qui est en mouvement.
Alors vous dites notamment, puisque au petit jeu des citations, il y en a quelques-unes qui sont vraiment intéressantes, vous rappelez une phrase de Kafka dans son journal, « Le Messie ne viendra pas le dernier jour, il viendra le lendemain ». Donc voilà, on ne doit plus attendre une révélation qui arrive d'autre part, on doit être son propre Messie d'une certaine façon.
Oui, moi je pense, je veux dire, il est temps de se prendre en main nous-mêmes. d'arrêter d'espérer que la solution vienne d'ailleurs ou d'en haut. Je veux dire, on est tous responsables de la situation et on est tous potentiellement la solution à la situation.
Sur la nature profonde de l'être humain, Guibert Delmarmol, vous nous dites que c'est d'être coopérateur et pas compétiteur. Et pourtant, si on regarde l'histoire de l'humanité, on a l'impression quand même qu'une très grosse partie de l'activité humaine, en particulier les plus importantes, qui serait la guerre, la religion, peut-être aussi les relations sexuelles, sont basées sur la confrontation, les rapports de force, la compétition. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu rêvé que de croire que c'est la coopération qui prime ?
Non, le problème, c'est qu'on met toujours en exergue ce qui ne fonctionne pas. Et moi, je rejoins très fort Mathieu Ricard dans son livre sur l'altruisme, quand il dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça, il y a beaucoup plus au quotidien de gestes de bienveillance et de coopération que de gestes de compétition. Mais cela, on n'en parle pas. C'est assez simple. Et je crois fortement en ça. Il m'est arrivé de voyager dans tous les pays, sous toutes les obédiences, de rencontrer toutes les cultures. Je peux vous dire que toutes les mères ont les mêmes espoirs pour leurs enfants, les mêmes peurs. Et fondamentalement, la main se tend partout. Il y a malheureusement souvent un dogme, parfois politique, parfois religieux, qui vous explique que l'autre est l'ennemi. Il est temps de sortir de cette solution-là.
C'est la faute aux médias ?
Non, c'est la faute aux médias. Je ne pointe pas un doigt accusateur, je constate simplement. Il est temps simplement que les gens, s'ils le désirent, s'éveillent à une nouvelle réalité et se prennent en charge.
Est-ce que vous êtes un pessimiste qui rit ou un optimiste qui pleure, Guibert Delmarmol ?
Ni l'un ni l'autre. Je suis un utopiste pragmatique ou bien un dubitatif enthousiaste.
Et notre invité pour cette dernière partie de « Et Dieu dans tout ça » était donc Guibert Delmarmol, que nous recevions à l'occasion de la parution de « Sans plus attendre ». C'est le titre de son dernier livre qui vient de paraître chez Care Éditions.